Le CIMI, du 10 au 12 décembre 2024, au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec Bâti Santé, Salvia Développement, Solare IT et Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.
On poursuit notre journée marathon Salon CIMI. Vous êtes sur Radio Imo, sur Radio Territoria. Je suis ravi de vous retrouver avec notamment Guillaume Garcin. Bonjour Guillaume.
Bonjour Grégoire.
Vous êtes directeur général France de Christie & Co.
Exactement.
On va parler du marché de l'hôtellerie. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous présenter Christie & Co rapidement en France ?
Rapidement en France et en Europe, puisque allez. Christie & Co, c'est un groupe anglo-saxon.
Hein, 1934, hein, vous disiez.
1935.
35.
Ouais, vous n'êtes pas loin. Ouais. Groupe londonien, donc, qui fait de la transaction et du conseil sur plusieurs typologies d'actifs, de la santé, de l'hôtellerie, des pubs au UK historiquement. Et en effet, Christie & Co s'est développé sur le territoire continental européen. Récemment, on va dire, ça fait 26 ans désormais qu'on est en France. Et on a aujourd'hui des bureaux donc, en Allemagne, en Autriche, en France et en Espagne. On a 5 bureaux en France, on en a 22 au total en Europe.
Okay.
Christie & Co, c'est 250 collaborateurs en Europe quand même, et plus d'une soixantaine dédiés à l'hôtellerie. Donc le plus gros groupe entre guillemets de collaborateurs en hôtellerie, en brokerage, transactions et conseils.
Ouais, parce que nous on va parler d'hôtellerie. On aurait aimé discuter de pub, mais bon, on en a un petit peu moins chez nous. Ouais, on va parler d'hôtellerie.
Et je m'y connais moins, à part pour les consommer.
Bon, allez, comment il se comporte ce marché de l'hôtellerie en 2024?
Eh bien, un marché...
Difficile.
Non, plutôt qui se porte bien, on va être transparent, par rapport aux autres catégories d'actifs.
Ouais.
Évidemment, il est mis en lumière, mais même par rapport à sa catégorie lui-même, puisque si on parle en termes de montant de transactions, en 2024, on devrait arriver à 2 milliards et demi de transactions en France.
Okay.
Pour une moyenne décennale qui est autour des 2 milliards, avec une année exceptionnelle en 2019 qui était au-dessus des 3 milliards. Donc une année en volume qui se porte très bien et sur un marché qui reste quand même assez fluide et surtout avec une demande très forte. Donc ça, c'est quand même des aspects positifs.
Il y a une dynamique qui a été retrouvée. Je sais que le démarrage après le Covid a été plutôt long sur l'hôtellerie.
La dynamique, elle a été retrouvée assez vite, en fait.
Okay.
On est sorti assez vite du Covid, alors avec des temps un peu différents, puisqu'on a eu un temps, en effet, de clientèle plutôt nationale, qui sont venus en termes de tourisme sur le territoire national. Ensuite, en deuxième temps, on a eu la clientèle européenne qui est revenue sur la France. Et là, cette année, ce qu'on a, c'est des clientèles américaines, asiatiques, qui reviennent fort.
Les JO qui ont bien aidé.
Alors, les JO, ça a aidé et pas aidé, puisque mois de juin, juillet, compliqué, très compliqué. Ça a fait fuir plutôt les touristes, clientèle corporate aussi. En revanche, l'effet rattrapage pendant les JO qui se sont passés d'une façon extraordinaire,
ça
a marqué, donc incroyable. Et en plus, il y a eu beaucoup de critiques en amont. On est français, on est souvent négatif. Mais le bilan est très positif et ça impacte non seulement l'année sur 2024, mais ça va impacter les années à venir aussi. Avec un savoir-faire français qu'il faut mettre en avant.
Oui, en matière d'hôtellerie, on peut difficilement faire sans le savoir-faire français.
En hôtellerie, on est quand même un des pays qui sait faire de l'hôtellerie. On a des acteurs très variés. Aujourd'hui, alors évidemment, on cite les plus connus, comme Accor, mais il y en a beaucoup d'autres. B&B aussi, qui a connu un fort développement. Donc on a vraiment cette expertise-là, nationale, mais aussi internationale. Et après, on apprend aussi de ce qui se passe sur le marché et des autres, évidemment. Il n'y a pas que l'hôtellerie. Il y a le Airbnb, par exemple, qui a mis un peu de concurrence à une époque, ou en tout cas, on a cru. Le Covid aussi, on a vu des changements dans le personnel avec le management. Donc, ça a obligé aussi l'hôtellerie à se réformer, si on peut dire, mais de manière positive.
Et il y a eu un changement de consommation de l'actif hôtel.
Oui, complètement.
On ne va plus à l'hôtel comme on y allait encore il y a 10-15 ans.
En fait, c'est plutôt... Il y a un changement, évidemment, puisqu'il y a une clientèle très variée.
Ouais.
Mais surtout, on voit en fait des concepts très différents. Il y a les gens qui veulent juste se loger une nuit, qui vont regarder le prix. Pour eux, c'est prioritaire. Ouais. Et puis, il y a des gens qui vont être dans un autre aspect, qui veulent de la restauration, qui veulent des salles de séminaire pour du corporate, qui veulent un rooftop aussi pour faire la soirée. Donc, il y a même aussi du flex-office qui se développe maintenant dans les hôtels, des cuisines dans les chambres. Donc, en effet, on est face à une multiplicité de types d'hôtels. Parce qu'une multiplicité du type de clientèle.
Ouais, donc, c'est ça. Et du coup, les hôtels, ils ont dû s'adapter forcément à ces nouveaux usages.
Et oui, les hôtels se sont adaptés. Ils sont obligés de s'adapter vite parce que les conséquences financières sont importantes. Ils marchent toute l'année, 365 jours sur 365, ça ne ferme jamais. Ils ne peuvent pas avoir de trou dans la raquette. Donc, en effet, il faut se réformer. Ceux qui ne se réforment pas, ils vont avoir des difficultés. Et on en a connu.
Est-ce que vous diriez que l'actif hôtel, c'est un actif qui a le vent en poupe ?
Ouais, je pense que je m'avance pas trop en disant ça. Ça le vend en poupe. Après, le volume de transactions restera ce qu'il est, c'est-à-dire on n'ira pas sur des volumes de transactions comme sur du bureau où on atteignait les 20 milliards. Mais ça reste une classe d'actifs qui, selon moi, n'est plus une niche, c'est une vraie classe d'actifs.
C'est ça. Avant, c'était un peu vu comme les équipes hôtelières chez les brokers, JLL, CBRE, etc. C'était un peu vu, c'était les gens à part, des hyper spécialistes sur une niche, effectivement.
Ouais, classe d'actifs alternative, mais je pense que ce qui n'a pas changé, c'est pas tant que la classe d'actifs soit mise en avant. En revanche, ce qui a beaucoup changé, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir une expertise forte, beaucoup moins simple que gérer du bureau.
Ouais.
Il faut comprendre le sous-jacent, et le sous-jacent est beaucoup plus hétérogène que sur d'autres classes d'actifs. Donc,
et parce que plus de réglementation aussi ?
Alors oui, il y a plus de réglementation, je ne suis pas sûr, parce qu'on a quand même des ERP aussi dans d'autres classes d'actifs, des normes de sécurité, même en logistique. Donc c'est, la réglementation, je pense, ce n'est pas le vrai sujet. Je pense que c'est le métier en dessous, où en fait on combine beaucoup de métiers différents. On va avoir de l'hébergement, évidemment, on va avoir de la restauration, du bar, et puis tout ce que ça comporte avec une gestion du personnel qui est importante et une gestion des flux qui va être aussi importante. Donc il faut avoir cette compréhension de quelle clientèle capter, pour quel type d'hôtel, combien d'étoiles, quelle marque va bien s'implémenter dans une zone territoriale. Donc c'est une classe d'actifs passionnante, et à l'inverse aussi d'autres classes d'actifs. Par exemple, le bureau qui est limité à QCA, évidemment que des hôtels à Paris, c'est extraordinaire, il y a du foncier, mais ça marche très bien aussi dans des petites villes, des villes moyennes, du littoral, des zones montagneuses, parce que le tourisme en France se porte très bien.
On est un pays touristique.
On est le plus grand pays touristique. Ouais. Je rappelle qu'on a aussi quand même le deuxième marché au monde en termes de camping, pas très éloigné quand même de l'hôtellerie. Et qui s'est beaucoup renouvelé, c'est plus le camping qu'on a connu il y a 20 ans.
Ah bah maintenant, une apparition du camping de luxe qui est prisé par la population française.
Prisé par la population, prisé par les investisseurs. On a des nuitées en camping maintenant de 500 à 1000 euros, ça arrive sur du luxe. Mais est-ce qu'on appelle encore ça du camping ?
Une
évolution, une porosité entre l'hôtellerie, le camping et puis d'autres classes d'actifs. Donc ce qui est intéressant, c'est justement cette mixité des usages. C'est passionnant. Et c'est là où je pense qu'il y a encore beaucoup d'avenir. Et contrairement à d'autres secteurs où on peut s'interroger, le tourisme en France, il n'y a pas de raison qu'il s'érode. La France reste un pays attractif, peu importe ce qui s'y passe. On a des fondamentaux solides, on a la chance d'avoir un beau pays, on a une gastronomie qui est renommée. Pour nous, tout est ouvert pour le tourisme en France, et donc l'hôtellerie. Et le bureau, on est rentré dans une sorte de normalisation du télétravail aussi, donc rassurant par rapport à ce que certains pouvaient penser pendant le Covid, en se disant on fera 100% de télétravail, maintenant c'est fini.
Chez nous, de toute façon, en France, c'était impossible. C'est pas dans notre modèle, le 100% télétravail. 2-3 jours, ça y est, c'est culturel, c'est rentré dans la norme. Ouais. Et justement, les hôtels peuvent servir de tiers-lieu. Les gens peuvent aller travailler dans les hôtels qui s'ouvrent de plus en plus au télétravail.
Exactement. C'est vrai qu'il y a du flex-office maintenant dans les hôtels. Alors après, il y a aussi un problème de produit. Il faut avoir la place pour le faire,
évidemment,
le concept. Mais en effet, c'est cette mixité des usages, parce que les gens sont plus flexibles. On a la chance de ne pas avoir vu tout blanc ou tout noir. Je pense qu'en France, on a eu aussi cette raison gardée, justement, de ne pas se dire qu'on passe à 100% télétravail, de garder une, deux, trois journées de télétravail.
Ouais.
Et on arrive à s'y retrouver. Donc, ça fait une sorte de stabilisation sur la clientèle corporate aussi.
On a parlé de 2024. Vous la voyez comment, l'année 2025 ?
Je la vois positivement. D'une part, on a eu quand même les JO qui ont impacté en termes de marketing mondial. Hein, j'ai envie de dire, c'est extraordinaire ce qui s'est passé pour les JO en termes de vitrine.
Ouais.
Ça va impacter durablement le tourisme pour les prochaines années, à donner envie à certaines personnes de venir en France aussi. On a aussi des pays qui sont en fort développement, comme l'Inde, la Chine aussi, même s'il y a une diminution de la population, mais avec une augmentation du nombre potentiel de clients.
Exactement.
Donc ça va être aussi positif. Et 2025 s'annonce, je pense, sous de bons auspices. On a quand même ces aléas budgétaires que tout le monde connaît, avec l'incertitude que ça provoque pour les investisseurs. Donc on a en effet quand même des investisseurs internationaux qui mettent la pause parfois sur certains investissements. Néanmoins, l'hôtellerie n'est pas trop impactée parce que...
En plus, j'ai l'impression que la liquidité est là. Donc,
quand
même, les projets sont en pause, mais les investisseurs nous disent « mais on a les moyens d'eux, donc en fait, on va le faire ».
Oui, c'est exactement ça. L'hôtellerie ne souffre pas de liquidité. Il peut y avoir des problèmes sur les prix. Enfin, c'est-à-dire, ça, c'est toujours pareil, hein, c'est l'adéquation du marché. Mais sur la liquidité, il n'y a aujourd'hui aucun sujet.
Ouais.
Donc ça, c'est une des classes d'actifs où on garde une liquidité intéressante. C'est là où même certains investisseurs institutionnels, quand ils doivent faire des arbitrages, ils peuvent arbitrer des hôtels. Non pas parce qu'ils veulent s'en séparer, parce que c'est plutôt des bons actifs, mais parce qu'ils ont besoin justement de liquidités qu'ils ne retrouvent pas sur d'autres classes d'actifs. Et donc, ça a fait l'objet de quelques sessions cette année, justement, à Paris, de gros institutionnels.
Est-ce que l'hôtellerie, en fait, j'ai l'impression que l'hôtellerie a été intégrée maintenant dans cette mixité des usages qu'on recherche sur les projets, c'est-à-dire qu'on ne fait plus juste un projet hôtellerie, un projet bureau, on fait vraiment des projets mixtes où on met de l'hôtellerie, on met du bureau, on met de l'habitation, on recrée des vrais centres dans la ville. Et j'ai l'impression que l'hôtellerie en fait vraiment partie.
Ouais, on essaie. Alors le bureau, il est quand même très impacté. Donc c'est compliqué maintenant pour les promoteurs, par exemple, de faire du bureau.
Ouais.
Donc ils vont se retourner vachement vers la santé, le résidentiel et l'hôtellerie. En revanche, en effet, ça fait partie d'un cadre global dans un aménagement d'un territoire. Et on le voit aussi dans des villes moyennes, où là même l'hôtel est suffisant à lui-même. C'est-à-dire que hors résidentiel, hors bureau, si vous avez un hôtel qui dispose d'une certaine flexibilité, comme on le disait tout à l'heure sur le flex office, les salles de séminaire, le bar, parfois des food trucks en pied d'immeuble aussi, et qui vont animer la ville. Donc on va avoir une clientèle évidemment étrangère, ou en tout cas pas de locale, plus cette clientèle locale qui va pouvoir venir, et en plus ça va créer de l'emploi. Donc l'hôtel aujourd'hui est un objet qui peut suffire à lui-même, entre guillemets, même si c'est mieux qu'il soit agrémenté avec en effet tout le panel autour, mais c'est pas si simple.
Guillaume, on est au Salon Simi. Qu'est-ce que vous attendez de ce salon? Il me semble que vous m'avez dit que c'était votre 11e Salon Simi, vous aussi.
Exactement.
Comment est-ce que vous voyez l'évolution du salon et qu'est-ce que vous attendez, vous, pour Christianco sur le salon?
Je pense que le Simi, c'est toujours l'occasion de discuter avec les acteurs, parfois qu'on connaît déjà, et évidemment de se re-entretenir, parce que les évolutions sont très rapides en ce moment sur l'économie. On a pu voir, les CPI aussi, ça a beaucoup bougé, donc de mois en mois, et les taux continuent à bouger, donc de mois en mois, tout bouge.
Ouais.
Donc nous, notre rôle en tant que conseil, c'est aussi de suivre ces mouvements, de suivre nos clients.
Au courant des tendances.
Et, exactement. Comprendre les tendances, leurs besoins, leurs problématiques.
Ouais.
Et puis pour pouvoir aussi abreuver le marché dans un marché qui est très opaque de l'hôtellerie, notamment des transactions, de pouvoir aussi faire le conseil qu'on doit à certains de nos clients qui nous le demandent. Donc pour nous, c'est important.
Merci beaucoup, Guillaume, pour cet échange. C'était très, très intéressant. J'étais ravi de vous recevoir et je vous souhaite un très bon Salon Simi.
Merci, Grégoire.
Bonne journée.
Bonne journée.
Le Simi, du 10 au 12 décembre 2024, au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec Bâtisanté, Salvia Développement, Solare IT et Procivis sur Radio Immo et Radio Territoria.